Vraie Nue. Toute cette semaine, Martin Kénéen rencontre Bartabas. Ce soir, l'art équestre.
Avant que d'être pédagogue, metteur en scène, scénographe ou chorégraphe, Bartabas, vous êtes écuyer et vous êtes même poète écuyer. En tant que créateur et qu'artisan d'une nouvelle forme de spectacle vivant, le théâtre équestre. Alors nous allons à présent parler d'art, à la fois de votre art équestre, de ce que vous entendez.
D'un air triste.
Au contraire, c'est plein de promesses.
Oui.
À la fois votre art équestre, qui ne cesse de renouveler les attentes du public, et puis toutes les rencontres que vos spectacles avec le théâtre Zingaro, avec l'Académie équestre de Versailles, toutes ces rencontres avec d'autres arts, avec d'autres grands artistes que vous avez fait sauter en selle à vos côtés. On pourrait peut-être quand même tenter d'emblée une définition de ce que vous entendez par art équestre, parce que je crois que Napoléon Bonaparte considérait que c'était un art tout d'exécution. L'art équestre, c'est d'abord un art militaire, mais pour vous, c'est un art majeur.
Napoléon, c'est celui qui a fait le plus de mal à l'art équestre dans l'histoire de l'équitation, quand même, hein, parce que l'histoire de l'art équestre n'est pas quelque chose de linéaire. Hein. Il y a eu des pics. Et donc, les grandes époques ont été justement l'école de Versailles, l'époque à peu près, on va dire, autour de Louis XIV, plus ou moins, où l'art équestre était poussé à un degré assez sophistiqué, puisque c'était presque un art du ballet, quoi, équestre. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout pour la guerre, contrairement à ce qu'on a pu croire, c'était plutôt pour l'esthétique, hein, des carousels, alors éventuellement pour un monarque donner un peu de courage à ses troupes devant. Bon, enfin, tout ça, c'est un peu du bidon, en fait. Hein. C'était simplement, on pratiquait l'équitation chez les nobles, comme on pratiquait la danse, ou l'escrime, ou le chant, ou la musique, hein, à l'époque de Louis XIV. Donc, ça a été ce qu'on a appelé l'école de Versailles, qui était même en Europe, qui a été un peu le fer de lance de l'équitation européenne, quoi, à cette époque-là, avec l'Italie aussi un petit peu. Et puis après, l'époque napoléonienne, ça a été la catastrophe, quoi, puisqu'il fallait former des bataillons de plus ou moins cavaliers pour charger sabre au clair, botte à botte, dans des champs avec des trous partout, en hurlant. Voilà, donc il fallait les former, ils venaient de la campagne, il fallait les former en 15 jours, 3 semaines pour les envoyer au front. Quoi. D'où est venue cette théorie de l'enseignement un peu militaire, à la schlag, très rapide et très physique, on va dire, quoi, qui en a laissé des traces pendant encore très très longtemps, encore aujourd'hui presque. Hein. Où ça a un temps à disparaître, mais il y a encore des restes d'instructeurs comme ça, un peu côté militaire, où on apprend. Mais tout ça, il faut savoir que ça vient de l'époque napoléonienne. Hein.
Mais alors, votre art équestre.
Parce que les grands maîtres de l'équitation ont écrit La Guérinière, ça, c'est, voilà, c'est le 16e, c'est une autre époque. Et il faut savoir que le plus ancien traité d'équitation date de Xénophon, des Grecs, quand même, quoi. Donc voilà, c'est pas rien. Et c'est ce que je disais, on parle d'art équestre parce qu'on parle d'art majeur, quoi. C'est pas l'art de dresser les caniches ou les éléphants, quoi.
Mais là, si on remonte à l'Antiquité, à Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il découvre que l'éducation des enfants perses repose sur trois choses: aller à cheval, tirer à l'arc et dire la vérité.
Oui, bah.
C'est ça, votre art équestre aussi.
Si on veut, ça pourrait être une définition d'ailleurs, oui, parce que. Bah, les deux premiers points, pourquoi pas, et le troisième encore plus, j'allais dire, puisque c'est un peu la définition de Zingaro aussi. Hein. C'est un aspect qu'on n'a pas tellement abordé, qui n'a rien à voir avec les chevaux d'ailleurs. C'est l'aspect, j'allais dire, politique de Zingaro. Comme je dis souvent, ce qui compte, c'est pas de faire de la révolution sur scène. C'est déjà nous, dans notre comportement, à l'intérieur de ce que l'on peut, là où on peut agir, c'est-à-dire pour moi, à l'intérieur du microcosme qui est cette compagnie, de se conduire le mieux possible, quoi. C'est-à-dire que si on doit donner des leçons à une société ou en tout cas aux gens, c'est déjà de commencer par s'y appliquer à nous-mêmes, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose que ressentent les gens. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a jamais vu Zingaro, ça représente, l'aventure Zingaro représente quelque chose pour lui. C'est-à-dire de dire oui, c'est des gens qui peuvent arriver à, voilà, faire une des plus grosses compagnies d'Europe, complètement en dehors du circuit institutionnel, sans faire aucun compromis et en étant toujours droit dans ses bottes. Que quand je dis compromis, c'est des compromis au monde de l'argent, au monde de, enfin, on connaît, quoi, hein, de dire tous les, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important dans le, voilà, je pense que tous les gens, il y a une espèce de fierté de tous les gens de la compagnie ici, qui est de dire, voilà, on vit la vie entre guillemets, difficile ici, si on veut, d'un certain aspect. Quoi,
parce ici, que c'est au fort d'Aubervilliers, où chez nous sommes.
Voilà, mais
village, des caravanes.
Voilà, mais notre démarche est complètement respectable, quoi. Et ça, c'est important, quoi, d'avoir le respect de son travail et à travers ça, le respect du public, etc. Quoi. Enfin bon, tout ce qui. C'est un peu des principes qui sont quand même assez importants, je trouve. On ne rappelle pas assez, quoi. Il n'y a pas que le côté bohème, les chevaux, machin, l'art. C'est aussi voilà, savoir se comporter dignement. Pour moi, tu ne peux pas être un bel enculé et être un grand artiste, c'est pas vrai. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi. Les beaux enculés qui sont soi-disant des grands artistes, ça ne m'intéresse pas. Quoi.
Donc c'est...
Voilà, je pense que les gens doivent apprendre d'abord à être des bonnes personnes, des belles personnes, et après être des grands artistes. Quoi.
Mais donc cet art équestre, c'est d'abord, on l'entend, Bartabas, un art de vivre, un art de vie.
Oui.
Mais si on parle des arts et de ceux que vous convoquez, que vous malmenez, que vous embarquez avec vous dans votre art équestre, il y a peut-être pour commencer la peinture. Parce que il y a bien sûr le nom de nombre de vos chevaux qui est celui de grand peintre. On a parlé du Caravage, on a croisé Soutine.
Le Tintoret, le Gréco, Soulage même, il y a un grand cheval noir qui s'appelle Soulage qui est à l'Académie maintenant, déjà depuis de nombreuses années.
Et puis il y a Théodore Géricault qui est évidemment l'un des héros de votre film Mazeppa, qui est consacré donc à la vie de Géricault et du maître équestre Antonio Franconi. D'ailleurs, Géricault, vous citez une de ses phrases, « Apprenez de vos chevaux, pas de vos maîtres », je crois que c'est en substance c'est ça. Qu'est-ce que vous a appris la peinture de Géricault des chevaux ?
Oh bah, Géricault, pour moi, c'est ce qu'il avait d'intéressant, c'est que c'est le premier peintre qui a peint le cheval dans le quotidien. C'est le premier qui a peint le cheval au travail, le cheval dans les écuries, avec des comportements un peu bizarres où tu vois l'expression du cheval qui a les oreilles couchées, qui va taper. Ou quoi. C'est pas le beau cheval du roi ou comme on voyait souvent. Quoi. Donc ça, c'est le premier qui a vraiment dépeint la société à travers le cheval. Quoi. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on a dit de Géricault. Hein. Il avait dit lui-même, il aurait été le plus grand peintre reconnu de son époque s'il ne s'était pas contenté à faire pratiquement que des chevaux. Quoi. Parce qu'à part le radeau de la Méduse et ses portraits de fous, il a fait que des chevaux. Quoi. Et donc ça, je trouve ça déjà assez respectable.
Et ses chevaux de course en Angleterre, à Epsom, je crois, avec ses jockeys.
Oui, bien sûr.
Ses chevaux allongés, comme ça,
qui sont
démesurés.
Faux, qui sont faux, d'ailleurs, parce qu'il y a les deux antérieurs tendus et deux postérieurs tendus, qui est une allure qui n'est pas possible. Quoi. Voilà,
Et vous reconnaissez quand même votre amour pour les purs sangs et pour la course ?
Oui, enfin, disons, là, vous me parlez de peinture. Moi, je suis un fan de peinture. Je suis un fan de tous les arts qui reproduisent un petit peu des...
Donc les arts équins, pour le coup ?
Non, non, pas du tout. Mais pas forcément. Mais par exemple, je vais rarement au spectacle vivant. Le théâtre m'emmerde. la danse, un peu moins, et encore. Mais bon, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Quoi. Souvent, c'est un peu répétitif. Quoi. On sait déjà ce qu'on va voir. Quoi. Donc, je m'inspire. Mes sources d'inspiration sont plutôt soit la lecture... pour peu que j'ai le temps de lire, parce que comme je me lève tôt et que je me couche tard, je m'endors sur les bouquins. Donc c'est pour ça que j'aime bien la poésie, parce que c'est plus court à lire. Mais surtout, la peinture, les arts plastiques, un peu...
Mais, il y a un tableau en particulier qui vous hante. Là, on a quelques images autour de nous dans votre cabanon, mais...
Je vais vous dire non, pour une raison simple, c'est pas tellement ce que je pense, mais je pense que maintenant, je suis arrivé à un moment où j'ai compris qu'il fallait arrêter... de dire qu'une œuvre d'art était bien ou pas bien. Pendant longtemps, jeune, je disais ça c'est de la merde, ça c'est génial, ça c'est nul, etc. Et puis, avec le temps, je me suis aperçu qu'en fait, la valeur d'une œuvre d'art, c'est l'intention de l'artiste qui est importante. Est-ce qu'elle est respectable ou pas ? Est-ce que c'est un faiseur ou pas ? Quand tu connais un peu certains domaines, moi dans le spectacle vivant, je vois tout de suite, par exemple, quand un chorégraphe n'a plus rien à dire, je vois qu'il fait il refait du lui-même, quoi, sans rapporter rien de nouveau, il n'a plus rien à dire, en fait, quoi. Donc ça, je le détecte. Mais après, savoir si une œuvre vous touche ou pas, c'est quelque chose de complètement fluctuant. Donc tu peux avoir quelque chose qui me plaît beaucoup aujourd'hui, qui ne me plaisait pas. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas une œuvre où je dis ça, c'est génial, voilà. Donc, et là, tout de suite, j'ai pas spécialement de... Là, je sors d'une période où je viens de créer un spectacle, donc je suis un peu imbibé. En général, quand je suis dans cette étape-là, j'ai une étape où je ne suis pas du tout ouvert sur l'extérieur. Quoi. Donc, je n'ai pas vu de trucs récemment. Je ne peux pas te dire, tiens, je suis tombé sur tel tableau qui m'a touché comme ça au débeauté. Maintenant, voilà, tout m'intéresse. L'art, par principe, m'intéresse. C'est-à-dire, m'interroge. Voilà, mais
Dans le film Mazeppa, il y avait un plan saisissant où vous filmiez l'atelier du peintre Géricault du point de vue du tableau.
Oui.
Est-ce que ça a pu vous resservir aussi dans votre travail de chorégraphe, de scénographe dans les spectacles de Zingaro? Qu'est-ce que ça veut dire voir le monde depuis un tableau?
Bah, ça veut dire inverser le rapport scène-salle. Quelque part, ex anima, c'est un peu ça, quoi. C'est tout d'un coup, tu inverses les rapports. C'est l'animal qui prend la place de l'humain, qui exprime l'acteur, et puis le spectateur qui est un voyeur, quoi. Donc, qui fait presque irruption comme un animal ferait irruption, comme un chat ferait irruption dans une salle, quoi. Oui, c'est l'animal qui va parler d'humanité, quoi. Et c'est donc il y a un peu un inversement comme ça des choses, si on veut.
Mais comment un cheval il voit le monde, d'après vous, Bartabas, qui les connaissait peut-être mieux que nul autre?
Je pense que l'animal ne voit pas le monde, justement. Il ne voit pas l'univers. Il n'a pas la conscience de l'univers. Il a la conscience de ce qu'il y a. On découvre beaucoup de choses sur les animaux, hein, maintenant. Il faut savoir que vous m'auriez dit il y a 10 ans, qu'est-ce qui différencie un être humain d'un animal? Je vous aurais répondu, entre autres, la compassion. Je pensais qu'il n'y avait que l'homme qui était capable de compassion pour non seulement un être de son espèce, mais même pour les autres. Un humain peut être pris de compassion pour un animal. Et on s'est aperçu que les animaux aussi pouvaient avoir de la compassion. C'est-à-dire, on est en train d'apprendre beaucoup de choses sur le comportement animal maintenant, parce qu'on a d'autres moyens de les observer plus poussés, plus secrets, plus poussés, qui fait qu'on découvre beaucoup de choses. Mais je pense toujours que voilà, la conscience du monde, il n'y a que l'être humain qui l'a, d'où son problème. On en revient toujours à ça.
On a dit un mot de peinture. Il y a un autre art qui compte et qui pourtant à l'occasion vous emmerde, selon vos propres dires, Bartabas, c'est le cirque. On sait que le cirque moderne serait né de spectacles équestres. Philippe Asley, 1768, spectacle entièrement équestre pour cet ancien cavalier de l'armée anglaise. Et puis, étymologiquement, historiquement, le cirque, c'est cette enceinte circulaire où se donnaient les jeux. Là, tout près de nous, il y a ce cirque du théâtre Zingaro. Vous avez d'abord été dans l'aventure du cirque Aligre, on en a parlé. Ce qui est intéressant, c'est que dans les jeux du cirque, c'est une affaire de vie ou de mort. C'est ça que vous devez peut-être au cirque, c'est que
bizarrement, Zingaro, c'est de la vie ou de mort. Ce qui me passionne dans le cirque, c'est pas le contenu. Bon, moi, j'adore les petits cirques. Petit cirque un peu minable comme ça, parce que je trouve qu'il y a une grande humanité. Et puis surtout, c'est des gens qui proposent, on revient encore là, un autre style de vie. Et d'ailleurs, derrière cette politique culturelle, depuis maintenant presque une trentaine d'années, de donner des moyens au cirque comme on donnerait au théâtre ou à la danse, c'est-à-dire de faire des écoles du cirque qui produisent des espèces d'acteurs, en fait des acteurs complets, comme il y a eu ça aux États-Unis pendant longtemps, quoi. C'est-à-dire que maintenant qu'il n'y a plus trop de frontières entre le chorégraphe, le circassien, plus ou moins acrobate, etc. Mais donc il est rentré dans le rang, j'allais dire. Voilà, il doit passer par les théâtres, par des productions, il redevient dépendant du système. Alors que ce qu'il y avait de beau dans le cirque, qui est maintenant beaucoup décrié, entre guillemets, traditionnel, c'est leur liberté. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils se branchent à un lampadaire, paf, ils jouent, il n'y a pas de charge sociale, il n'y a rien de déclaré, et hop, le lendemain, ils sont partis. Et ça fait peur à la société. Et ça touche quelque chose qui, pour moi, est assez sensible. C'est-à-dire que le théâtre a été pendant longtemps comme ça. Il faut savoir qu'il y a encore 150 ans, les comédiens n'étaient pas enterrés dans les cimetières. Et être comédienne pour une femme, c'était être pute. Maintenant, c'est plutôt bien vu d'être comédienne, quoi. C'est un art reconnu, voilà. Et donc ça, il y a eu un glissement du rôle de l'artiste dans la société qui normalement ne peut pas prétendre à une place de la société puisqu'il est le rôle de l'artiste, c'est d'être en dehors de la société pour pouvoir la critiquer, la regarder, la parodier, etc. À partir du moment où il est trop dépendant de cette société, il n'a plus sa liberté, quoi. Donc, or maintenant, l'artiste est quelque chose qui a été... D'ailleurs, le mot a été illustré par le mot créateur. Les artistes sont devenus des créateurs. Tout le monde est créateur maintenant. Créateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous générez un bénéfice. Tout d'un coup, vous êtes rentable. Vous êtes un artiste rentable. Alors, dans les arts plastiques, je ne vous fais pas un dessin. C'est une évidence. Tout le monde investit. Pourquoi tout le monde investit? Si vous croyez que les Pinault et compagnie sont passionnés d'art, pas du tout. Ils se sont aperçus que c'était très rentable d'investir dans l'art. Quoi.
À propos d'art plastique.
Pour faire de l'argent. Non, mais c'est important cette notion-là parce qu'on ne le dit jamais assez. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Quoi. Et ce qui m'a intéressé, moi, dans ces petits circuits, c'est que c'est les derniers à être complètement incontrôlables, en fait. Quoi. Et ça, ça fait très peur. C'est pour ça qu'on veut les interdire. Quoi. Et ça, ça me plaisait. Quelque part, Zingaro, bon, on n'est plus rentré dans le rang aussi un petit peu, mais on reste un peu incontrôlable dans la mesure où on n'est pas une structure reconnue, étatique, qui rentre dans un... Voilà, on n'est pas un centre culturel équestre, ni quoi que ce soit. On est une troupe, voilà, même si elle obtient des aides de l'État, du Conseil Général, etc., même si c'est pas grand-chose par rapport à notre fonctionnement, quand même, voilà, il y a une certaine reconnaissance par rapport à ça. Mais on garde notre liberté, quoi. Et cette liberté-là, pour moi... Vous voyez...
Les ânes nous écoutent. Il y a un autre art. Je vous travaille sur tous les arts parce que Zingaro, l'Académie équestre, votre art équestre...
On en revient encore ça par rapport aux arts plastiques. Je dois finir. Par exemple, moi, un des artistes que j'admire le plus, c'est Ernest Pignon-Ernest. Pas seulement pour ses œuvres, bon, ça que tout le monde connaît, mais pour la personne encore. Quand je dis la belle personne, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans son cheminement artistique, a été voilà, d'une rigueur absolue. C'est-à-dire que pendant longtemps, il colle ses originaux dans la rue quand même, quoi. Et son problème à une époque, c'était que les gens les décollaient pour essayer de les collectionner parce que ça commençait à valoir beaucoup d'argent. Il faut un certain culot pour faire ça, quoi. Je veux dire, à une époque où tout le monde reproduit, maintenant, tu fais un cœur en plastique, machin, tu fais faire ça par des ouvriers, tu revends ça une fortune, enfin, les coûts
de
ces
compagnies, quoi. Ça rejoint votre démarche, d'ailleurs. C'est-à-dire voilà, mais travailler dans la rue, c'est vos débuts.
Oui, mais c'est important, cette notion-là, d'aller jusqu'au bout de son raisonnement.
L'œuvre disparaisse.
Voilà. Par exemple, Alain Cavalier, dans Les Cinéastes, c'est la même chose. Voilà quelqu'un que je respecte, non seulement pour la qualité de ses films, mais pour la pureté de sa démarche. Quoi. C'est un mec qui a commencé avec Alain Delon et Romy Schneider, et qui termine avec sa petite caméra tout seul à faire ses films comme t'écrirais un journal intime. Quoi. Et ça, il l'a fait pas par obligation économique, il l'a fait par cheminement. Quoi. Son chemin l'a mené à ça. Voilà, comme exactement à Zingaro, le chemin nous mène à faire un spectacle comme Ex Anima, c'est-à-dire tout d'un coup se retirer et laisser les chevaux, quoi. Il y a un raisonnement derrière, une pureté dans le geste artistique qui, pour moi, est fondamental, quoi.
Alors, rappelons que si vous citez Ernest Pignon-Ernest et Alain Cavalier, c'est qu'aussi, ils ont croisé votre route.
Entre autres.
Ernest Pignon-Ernest continue de dessiner avec sa calligraphie très particulière le titre de chacun des spectacles. Et puis, bien sûr, il a dessiné un certain nombre de vos chevaux, à commencer par Zingaro lui-même, votre frison. Et puis, Alain Cavalier, il vous a filmé au travail, au petit matin, au petit jour, ici, à Aubervilliers, dans le fort d'Aubervilliers, que ce soit dans le manège, qui est dans les bâtiments de tôle derrière nous, ou de l'autre côté de votre caravane, dans les douves, où vous êtes à ciel ouvert. Mais on parle de Cavalier, parlons de cinéma. Qu'est-ce que vous devez au cinéma? Il y a vos deux longs-métrages, Bartabas, il y a les captations très particulières que vous faites de chacun de vos spectacles, pour mémoire. Et puis, il y a aussi votre amour de Fellini, je crois.
Fellini, Tarkovsky, enfin, les grands. Oui, beaucoup, beaucoup. Le cinéma, c'est peu, je pense, avec la peinture, c'est ce qui m'a le plus influencé. Très jeune, j'allais beaucoup, beaucoup au cinéma. Je connaissais tout le cinéma, mais là, très, très jeune. J'avais 12, 13 ans. Je connaissais tous les films de cinéma muet, aussi bien de Buster Keaton, de Harold Lloyd et compagnie. Enfin, je gagnais
les Marx Brothers, un jour aux courses.
Marx Brothers. C'est pas le meilleur. Et un jour en course. Et non, puis c'est vrai que voilà, il y a des beaucoup d'auteurs, oui, voilà, Tarkovsky, Konchalovsky, enfin, il y en a beaucoup de. Enfin, je pourrais pas en citer.
Mais on disait que le cheval était à l'origine du cirque moderne. Il semble que le cheval soit aussi à l'origine du cinéma, puisque les photos de Edward Muybridge, photographe qui a comme ça attrapé les différents mouvements.
Décomposer
les mouvements du cheval serait un des pères du cinéma. Il y a une forme de logique pour vous que le cheval soit à l'origine de tout? Ou de ces deux arts-là, en tout cas, et du cinéma
non,
en particulier?
Je dirais juste que parfois j'ai des flashs. Par exemple, un de mes films cultes, c'est Andrei Rublev de Tarkovsky. Il y a une image qui m'a, à moi, vraiment profondément touché et qu'on retrouve dans tous mes spectacles. C'est, il y a un moment, c'est au début, il y a une montgolfière comme ça qui vole au-dessus de la campagne. Il pleut et il y a un cheval qui se roule sous la pluie, comme ça dans la boue, qui se couche. Quoi. Voilà, mais ça peut être aussi voilà un plan que je trouve absolument génial de Laurence d'Arabie dans la version longue, où tu as le gars sur son qui va boire de l'eau dans le puits, et tu as le propriétaire du puits qui arrive à cheval du fin fond du désert, où ce n'est plus qu'un petit point, et ça dure jusqu'à temps qu'il arrive à 2 mètres avec son fusil pour lui interdire de boire dans le puits, quoi. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça qui vont quand même marquer, quoi. C'est d'ailleurs drôle parce que tu t'amuses à voir d'où vient l'inspiration, tu t'aperçois fouiller un peu là-dedans, tu découvres des choses. J'ai revu il y a quelques temps, il y a un an ou deux, un film qui m'avait beaucoup marqué. Je ne sais, Chez les nains, on commence petit, du réalisateur allemand Fassbinder. Et j'avais, ce film-là m'avait marqué, mais je l'avais vu, j'avais 16 ou 17 ans, quoi. Je me suis rendu compte que dans ce film-là, il y a un moment, il y a un nain qui fait un monologue devant un arbre comme ça brûlé, qui a une branche qui pend comme ça, et il lève le bras et dit « moi, je ne baisserai pas mon bras devant toi », etc. Et puis il y a une autre scène où il y a un chameau ligoté et un nain qui rigole comme ça. Et c'est des tableaux que j'ai utilisés dans l'opéra Équestre, sans savoir, où il y a une chanteuse à un moment qui rigole devant un nain, devant un chameau couché comme ça. Donc c'est drôle comme des choses ressortent que tu as vues. Après, par exemple, un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Médée de Pasolini, par exemple. Bon, évidemment, je suis un grand fan de Pasolini aussi, non seulement en tant que cinéaste, mais en tant que, je pense que c'était un grand philosophe. C'est une qualité d'artiste assez exceptionnelle dans tous les domaines. C'est un visionnaire, hein, dans ses écrits, dans tout ce qu'il a dit, pas seulement ce qu'il a filmé, quoi. Et j'ai eu la chance j'ai fait latin seconde langue, bon, au lycée, ouais. Parce que j'étais allergique à l'allemand. Donc j'ai fait le latin, ce qui est assez rare, quoi. Et j'avais un prof de latin qui était génial, un prof de latin homosexuel qui était amoureux de la Callas et qui nous a préparé pendant un an. On a étudié Médée. La récompense était de voir Médée de Pasolini. Donc pendant un an, on a préparé la vision de ce film. Donc, je veux dire, quand on l'a vu, on l'a apprécié. Bon, et j'ai revu récemment ce film. Ça m'a fait le même truc. Ce qui m'a frappé du tout, c'est pas la Callas, c'est pas du tout tout ce que. Alors les costumes, très le côté un peu toutes les cultures mélangées qu'avait souvent Pasolini comme ça. C'est les musiques. Les musiques, et ça, j'avais pas analysé. Je me suis aperçu comment ça m'avait influencé. Il y a du gagaku japonais, il y a de la musique orientale. Enfin, il y a un mélange de musique dans ce film incroyable, quoi. Avec une espèce d'univers qui s'est tourné un peu dans les Cappadoces, s'est tourné un peu en Grèce, un peu en Éthiopie, un peu. Enfin, c'est un truc de fou, de mélange de cultures de fou. Je me suis aperçu comment ça avait influencé mon travail à Zingaro, pareil sur la recherche des musiques, des cultures, comme ça, une autre façon de les incorporer, des musiques traditionnelles, de les utiliser comme matériaux sonores. C'est très étonnant, quoi.
Alors, disons un mot de la musique, parce que vous évoquiez l'opéra équestre, c'était la rencontre. Entre autres musicales, entre les chants berbères, les chants géorgiens, il y a la musique traditionnelle coréenne, et la musique du Rajasthan, selon les spectacles, la musique mexicaine avec Calacas, bien sûr les musiques tziganes. Vous y insistez, Bartabas, vous faites pas un travail d'ethnologue ou d'anthropologue quand vous explorez des continents, des cultures, des civilisations dans vos spectacles, mais vous commencez quand même par la rencontre par la musique en particulier, avant d'en venir à ce que vous allez demander.
Pour une raison très simple, c'est que j'étais obligé de le faire dans la mesure où, et c'est un aspect assez important de Zingaro, si on enlève les chevaux, c'est la capacité d'accueillir en son sein des gens qui viennent d'une autre culture, d'un endroit géographique parfois très très éloigné, et de vivre avec eux une tranche de vie de 2 ans et demi. Ce qui n'est pas rien, c'est pas juste venir pour un concert. Hein, quand des Indiens viennent du fin fond du Rajasthan, ils quittent leur campagne, leur famille. Bon, il y avait 2 équipes, mais enfin, ils ont vécu pendant 2 ans et demi avec nous, quoi. Donc, ça, c'est un côté très important. Et j'allais dire, c'est ma nourriture. C'est-à-dire, au-delà de la musique, c'est la rencontre avec l'être humain, quoi. Et là, ça a été des leçons, j'ai appris des choses, enfin, vraiment des claques, quoi. J'ai pris des claques de gens, soi-disant, nous, peuple civilisé par rapport à souvent des peuples où on dit plutôt moins primitive, on s'aperçoit que c'est plutôt le contraire, quoi. C'est eux ont un rapport aux valeurs humaines. Et alors le rapport à la musique, c'est évidemment un rapport à la musique.
Très français celui-là.
Un rapport à la musique de tradition orale surtout. C'est ça qui me et parce que bon l'équitation c'est aussi ça, c'est la transmission non pas par l'oral mais par la présence, quoi. Et on peut pas l'écrire, quoi. On peut pas écrire une partition équestre, quoi. Je veux dire, on peut que transmettre par l'expérience, quoi. Et ça m'a toujours passionné, les transmissions à travers des siècles de la musique sans l'écrire. Donc tous ces musiciens-là, que ce soit les musiciens du Rajasthan, ces musiques coréennes, ces musiques georgiennes, ce sont des musiques qui se sont transmises de père en fils à travers des générations et des générations et des générations. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne, parce que ces gens-là, ce n'est pas que de la musique, ces gens-là sont leur musique. C'est-à-dire que ce n'est pas que des notes, c'est exactement comme des danseurs de Karalipayat, qui est un art martial indien que j'avais fait venir pour Triptyque. Ces mouvements-là, bien sûr que les danseurs contemporains européens pourraient le faire, mais leur corps ne le dit pas. Alors que les danseurs de Karalipayat, ils sont leur art, leur corps le dit. Voilà, ils sont nés dedans, ils le portent en eux. Et là, c'est pareil, c'est toutes ces musiques dont on parle sont habitées par des gens qui sont leur musique. Et ça, c'est très particulier, c'est-à-dire qu'il y a aussi une fraîcheur là-dedans, c'est-à-dire qu'ils jouent, d'ailleurs on dit jouer de la musique, ça, c'est pour eux, c'est un plaisir.
On dit pas jouer avec les
Indiens, ils sont là, ils jouent, avant de manger, ils vont jouer. Un musicien français ou classique, tu lui dis, si les pianistes, il y a un piano à côté, tu veux pas jouer? Ah non, non, moi, c'est sérieux, pour moi la musique, je joue pas comme ça, voilà. Je joue que quand il y a un concert ou que quand il y a... Voilà. Donc ça, c'est ce rapport à la musique qui est aussi intéressant, quoi.
Je veux dire que vous avez travaillé aussi avec des musiciens aussi sérieux que Pierre Boulez. Certains spectacles. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on joue avec le cheval alors ?
Bien sûr, d'une certaine manière, oui, bien sûr. C'est-à-dire que tu joues dans la mesure où, comme tu dirais, tu joues d'un instrument aussi. C'est-à-dire que tu joues, on joue à dire quelque chose, le cheval et nous, bien sûr. Et là, dans Ex Anima, c'est encore le summum, puisque nous, on se retire et le cheval reste seul à jouer, quoi. Et d'ailleurs, voilà, le terme jouer, il n'y a que les enfants et les animaux qui jouent, en fait. C'est pour ça que les acteurs ont toujours peur de jouer à côté d'un enfant ou d'un animal, parce que, en général, ils leur piquent la vedette, quoi. Parce que jouent naturellement. Ils sont dans le moment présent, quoi.
Des acteurs, je pense à Peter Sellars, qui, en bon acteur, avait quelques superstitions. Il fallait pas être en verre à ses côtés dans la plus grande tradition du théâtre. Il y a des superstitions dans l'art équestre de Zingaro aussi?
Non.
Pas de lapin à bord?
Non, non, moi je crois pas. Il n'y a pas de superstition. Par contre, il y a un rituel de préparation. Par exemple, surtout quand je faisais mes spectacles qui étaient des choses très très précises sur scène, j'avais toujours un rituel de préparation pendant une heure et demie avant. Chaque geste était le même tous les soirs. Mais chaque geste, je dis bien la manière de faire tourner le cheval, le nombre de tours, la manière de l'aborder, de le sangler. D'abord parce que ça te fait un point de référence pour bien comprendre comment est le cheval. Comment il réagit, est-ce qu'il est en forme, moins en forme, plutôt fatigué, etc. Ça permet aussi au cheval de se concentrer dans ce rituel, c'est très important. Si vous allez à Zingaro dans les écuries une demi-heure avant un spectacle, ou une heure même, avant que les gens rentrent, vous verrez que tous les chevaux sont scellés, attachés, prêts, et se concentrent. Il n'y a aucun énervement, vous ne verrez pas un cheval en train de gratter, en train de s'énerver, etc. Les chevaux
passent au-dessus d'un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, quand on
rentre
dans le théâtre.
Et ça, pour moi, c'est le stade... où on est prêt à jouer, c'est-à-dire quand le cheval sait qu'il peut attendre derrière la porte, les oreilles dressées, la porte va s'ouvrir, il sait ce qu'il va faire, même si c'est quelque chose de très dynamique, mais il ne stresse pas avant, et quand il sort, en 4 secondes, il retrouve le calme. C'est-à-dire qu'il sait pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il doit faire. Donc ça, tout ça obéit à un rituel de préparation qui est toujours le même. Mais on ne peut pas parler de... Ce n'est qu'un rituel de plus.
Merci, Bartabas. On va continuer demain, notre rituel... À voix nue.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre entre Martin Kénéen et Bartabas. À voix nue, coordination Claire Poinsignon, prise de son Thomas Robine, réalisation Véronique Lamondour. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.